إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ceci est donc un réenregistrement d'un des cours manquants de l'explication de Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, des conditions de la prière ainsi que des piliers de la prière et de ses obligations. Et ces réenregistrements concernent le point suivant: قوله اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق والمستقيم الذي لا عواج فيه. Donc l'auteur, qui est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire l'auteur du livre Les conditions de la prière, Shurut Salah, ainsi que ses piliers et ses obligations, il dit: guide-nous dans le droit chemin. Et le sens de guide-nous, indique-nous, dirige-nous, affermis-nous. Le chemin, c'est l'islam. D'autres ont dit le messager. Et d'autres, le Coran. Tout est vrai. Al-Mustaqim, le droit, sans aucune distorsion. L'explication de Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, concernant ce passage est la suivante: Hajatul ibadi ila al-hidayati ila al-sirat al-mustaqim fawqa kulli hajah, wa daruratuhum ilayha fawqa kulli darurah. وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا، وأما هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والهدى، ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وسؤال العبد ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم. يتضمن سؤال الله عز وجل تثبيته على ما حصل له من الهداية، ويتضمن طلب المزيد من الهداية كما قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، سورة محمد. ولا تنافي بين تفسير اهدنا بدلنا وأرشدنا وثبتنا وتفسير الصراط المستقيم بالإسلام والرسول والقرآن، لأن ذلك من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. ولهذا قال الشيخ: والكل حق. وتفسيرة السلف غالبا تكون من هذا القبيل، إما تفسير بألفاظ متقاربة كلها أو كلها حق ولا تنافي بينها كما هنا، وإما تفسير بالمثال، وهو أن يفسر لفظ عام ببعض أجزائه، مثل قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، سورة البقرة. فإن تفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الطيب لا منافاة بينها، وهو من قبيل التفسير بالمثال. كسك ندي الشيخ عن محسن العباد حفظه الله تعالى. En guise d'explication de ce passage, il dit, hafidhahullah, qu'Allah le préserve et le récompense par le Firdaus al-A'la, le besoin de guidance des serviteurs vers le droit chemin est au-dessus de tous les besoins. Et la nécessité de cette guidance est au-dessus de toutes les nécessités. Leur besoin de guidance est plus fort que leur besoin en nourriture et en boisson. car la nourriture et la boisson sont les causes par lesquelles ils restent dans ce bas monde, tandis que leur guidance dans le droit chemin, elle est la cause de leur félicité et de leur bonheur dans le bas monde et dans l'au-delà. Le fait de demander la guidance vers le droit chemin comprend la demande d'indication et de direction vers la voie de vérité et de guidance, et comprend également la demande de tawfiq pour prendre le droit chemin. Pour prendre le droit chemin. La demande de l'adoration à son Seigneur de le guider vers le droit chemin dans chacune des unités de prière comprend la demande à Allah qu'il l'affermisse sur ce qu'il a déjà obtenu comme guidance et comprend aussi la demande de plus de guidance, comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Et c'est la traduction du sens de Surat Muhammad, verset 17. Il n'y a pas de contradiction entre l'explication de « guide-nous » par « indique-nous » et « dirige-nous » et « affermis-nous » et l'explication du droit chemin par l'islam et le messager et le Coran, car cela rentre dans la divergence de diversification, « khilafu tanawwu », et ce n'est pas une divergence d'opposition, « khilafu tadad », et c'est pour cela que le cheikh a dit « et tout est vrai, juste », c'est-à-dire tous les sens sont justes. Les explications des pieux prédécesseurs sont souvent de ce type. Les exégèses des pieux prédécesseurs sont souvent de ce type, soit des exégèses par des paroles proches et toutes vraies, justes, entre lesquelles il n'y a pas de contradiction, comme ici dans ce verset, soit une explication par l'exemple. Et c'est le fait d'expliquer une parole générale par une de ses composantes. Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà » Surat al-Baqarah, verset 201. L'explication ici de la belle part d'ici-bas par l'épouse vertueuse ou l'enfant vertueux ou l'argent licite, il n'y a pas de contradiction entre ces différentes explications et c'est de l'ordre de l'explication par l'exemple. قوله أي قول المصنف وهو الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق المنعم عليهم والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سورة النساء غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال نسأل الله أن يجنبك تسأل الله أن يجنبك طريقهم ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سورة الكهف والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا ما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il continue en disant le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Ceux qu'Allah comblé de ses bienfaits, et la preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah, quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Surat An-Nisa, verset 69. Ceux qui ont couru ta colère, ce sont les juifs, car ils ont une science, mais ne l'ont pas mise en pratique. Tu demandes à Allah qu'il t'écarte de leur voie, ni des égarés, et ce sont les chrétiens. Ils adorent Allah avec ignorance et égarement. Tu demandes à Allah qu'il t'écarte de leur voie. La preuve de Ad-Dallin, les égarés, la traduction du sens de la parole d'Allah, dit « Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Surat al-Kahf, verset 103. Et le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés comme se suivent les plumes d'une flèche, à tel point que s'ils entraient dans le terrier d'un uromatique, c'est un genre de lézard en fait si vous voulez, vous y entreriez également. Ils dirent au messager d'Allah, les juifs et les chrétiens, il dit qui donc? Rapporté par le Bukhari et Muslim. Deuxième hadith, les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Nous dîmes, quel est-il envoyé d'Allah? Il dit, ceux qui sont sur ce quoi je suis moi et mes compagnons. On a l'explication maintenant là-dessus de Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala. Il dit, As-Sirat al-Mustaqim, alladhi يسأل المسلم ربه أن يهديه إياه هو الطريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هو يسأل الله عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه طريق الحق والهدى وأن يجنبه طريق أهل الضلالة والغواية من اليهود والنصارى وحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأوله عند البخاري بلفظ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا وعند مسلم بلفظ لتتبعن الذين من كان قبلكم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحديث افتراق الأمة جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انظر تخريجه في التعليق على الحديث رقم 16938 من مسند الإمام أحمد وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله حديث 103 و104 وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية والشاطبي والعراقي والمراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة هذه 73 فرقة مسلمون فرقة ناجية وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واثنتان وسبعون فرقة متوعدون بالنار لانحرافهم عن طريق الحق وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وأما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة ويدخل فيهم اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وانظر فتوى شيخ الإسلام المجلد السابع رقم 218 وفتوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني رقم 157 دوك شيخ المحسن العباد حفظه الله تعالى Il nous explique ce passage en disant « Le droit chemin vers lequel le musulman demande à son Seigneur d'être guidé, c'est le chemin de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. » Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Et voilà mon chemin droit dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. » Ainsi atteindriez-vous la piété. Surat Al-An'am, verset 153. Il demande à Allah dans chacune des unités de sa prière de le guider vers le chemin de vérité et de guidance et de l'écarter du chemin des gens de l'égarement et de l'erreur parmi les juifs et les chrétiens. Le hadith, si vous suivrez, certes, les voies de ceux qui vous ont précédés. Rapporté par Al-Bukhari, 7320 et Muslim, 2669, d'après Abu Saïd. Son début est dans Al-Bukhari avec la formulation suivante. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, empan par empan, coudé par coudé. Et chez Muslim, avec la formulation, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, empan par empan, coudé par coudé. Hein, la différence évidemment ici entre les deux formulations, elle est en arabe. Et le hadith sur la division de la communauté a été rapporté par un groupe de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Voir les annotations du hadith 16937 du Mousnad de l'imam Ahmed et Al-Silsila Al-Sahiha de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, volume, hadith, pardon, 203-204. Il a rapporté des Boutimia, rahimahullah, et des Shatibi, rahimahullah, et l'Iraqi, rahimahullah, son authenticité. Ce qui est voulu par communauté dans le hadith, c'est la communauté de réponse, c'est-à-dire qui a répondu à l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ces 73 sectes, groupes, sont musulmans. Un groupe sauvé, et ce sont ceux qui sont sur ce quoi était le prophète, alayhi salatu wa sallam, et ses compagnons, et 72 groupes menacés de l'enfer pour leur déviance de la voie de vérité. Leur cas revient à Allah. S'il veut, il les punit, et s'il veut, il leur pardonne. Tandis que la communauté d'appel, ce sont tous les êtres humains et tous les djinns, depuis l'envoi du prophète, alayhi salatu wa sallam, jusqu'au jour du jugement dernier, et ils sont compris les juifs et les chrétiens, et toutes les religions de mécréance. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, n'entendra pas sur moi quelqu'un parmi les gens de ma communauté, un juif ou un chrétien, puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il soit au nombre des gens de l'enfer. Et c'est un hadith rapporté par Muslim 386, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu arda. Voir Fatawa de Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, volume 7, page 218, et la Fatawa du comité permanent, Al-Lajna Da'ima, tome 2, page 157. Cheikh Mohammed ibn al-Awhab, rahimahullah, il continue en disant: قوله والركوع, c'est Cheikh Mohsin al-Abbad qui rapporte la parole en disant قوله والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا سورة الحج والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. La parole de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala ici est donc: et l'inclinaison, al-ruku', et le redressement de l'inclinaison et la prosternation sur les sept membres, et se relever de la prosternation et la position assise entre les deux prosternations. Pour preuve, la traduction de la parole d'Allah: ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous. Sourate al-Hajj, verset 77. Et le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: il m'a été ordonné de me prosterner sur les sept os, sur les sept os. C'est les sept os. Et l'apaisement dans toutes les actions et l'ordre dans les piliers. Et pour preuve, le hadith de celui qui a mal accompli sa prière, d'après Abu Hurayrah, qui a dit: nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme entra, pria, puis salua le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: retourne et prie, car tu n'as pas prié. Il le fit trois fois. Puis il dit: par celui qui t'a envoyé, prophète avec la vérité, je ne sais pas faire mieux que cela. Apprends-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: si tu te lèves pour prier, fais le takbir, c'est-à-dire dis Allahu Akbar. Récite ensuite ce que tu peux du Coran, incline-toi ensuite jusqu'à ce que tu arrives à l'apaisement dans ton inclinaison, puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien droit. Ensuite, prosterne-toi jusqu'à ce que tu t'apaises dans ta prosternation. Redresse-toi jusqu'à ce que tu t'apaises en position assise et fais ensuite cela dans toute ta prière. Explication de Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, il dit: هذه سبعة من أركان الصلاة كلها أفعال. كلها أفعال، وقد دل عليها جميعها، وقد دل عليها جميعها حديث المسيء صلاته، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث السجود على الأعضاء السبعة أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. ورواه مسلم أيضا. والطمأنينة في الأركان الهدوء وعدم العجلة، فلا ينقر هذه الأفعال بل يطمئن فيها سواء طال الاطمئنان أو قصر. وأما الترتيب فيأتي بها مرتبة: القيام، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين. فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود، ولا يعتد أو لا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى il explique ce passage en disant: les sept piliers cités ici, évidemment les sept piliers de la prière, sont tous des actions. Ils ont tous été indiqués par le hadith de celui qui a mal fait sa prière, rapporté par le Bukhari numéro 757 et Muslim 397. D'après Abu Huraira, et le hadith de la prosternation sur les sept membres est rapporté par Al-Bukhari 812. D'après, et quand on dit les sept membres, c'est-à-dire les sept parties du corps, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: elle m'a été ordonné de me prosterner sur sept os, sur le front, et il indiqua de sa main le nez, et les deux mains, et les deux genoux, et les extrémités des deux pieds, et de ne pas ramasser nos vêtements ni nos cheveux. Rapporté par Muslim 459. L'apaisement dans les piliers, c'est le calme, de ne pas se précipiter, et de ne pas se précipiter dans ses actes, comme picorer, naqr. Mais de plus, il faut être calme, apaisé lors de ses actes, que cet apaisement soit long ou court. Tandis que l'ordre, les piliers doivent être dans l'ordre: la position debout, ensuite l'inclinaison, ensuite le redressement de l'inclinaison, ensuite la prosternation, ensuite l'assise entre les deux prosternations. S'il se prosterne par oubli avant de s'incliner, il est obligatoire de revenir pour s'incliner et ensuite se prosterner. Et la prosternation qu'il a faite par inattention n'est pas prise en compte. قوله: والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحية لله، والصلاوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به الرب رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية، والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان. Donc la parole de Cheikh Mohamed bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala est la suivante: et le dernier tashahhud est un pilier obligatoire, comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Il dit: nous disions avant que le tashahhud nous soit rendu obligatoire, Assalamu ala Allah min ibadihi, Assalamu ala Jibril wa Mikail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne dites pas Assalamu ala Allah min ibadihi, car Allah est Assalam, mais dites plutôt At-tahiyatu lillah wa الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للصلاة التحيات. Toutes les glorifications sont à Allah, comme le courbement et l'inclinaison et la prosternation et tout ce avec quoi on glorifie le Seigneur de l'univers appartient à Allah. Celui qui vaut quelque chose de cela à autre qu'Allah est un associateur mécréant. As-salawat, le sens est toutes les invocations. Ad-da'awat, il a été dit également que son sens est les cinq prières. At-tayyibatu lillah, Allah est tayyib, bon. Il n'accepte des paroles et des actions que ce qui est bon. As-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu invoques pour le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes pour lui la miséricorde, la baraka. As-salama, et celui pour qui on invoque, on ne l'invoque pas avec Allah. Et ça, c'est une règle à mémoriser en tawhid. Hein? Et celui pour qui on invoque, on ne l'invoque pas avec Allah. As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, tu te salues toi-même et tout adorateur vertueux dans le ciel et sur terre. Et le salam est une invocation, une dua. Et on invoque, on demande pour le vertueux, as-salihun, as-salihu. Et on ne les invoque pas avec Allah. Donc c'est aussi la même règle ici dans le tawhid. On invoque pour les vertueux et on ne les invoque pas avec Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tu attestes avec certitude qu'il n'est adoré sur terre ou dans les cieux avec vérité qu'Allah. Ici, un point, attention, c'est l'adoration, évidemment, qui est dans le ciel ou sur terre ou dans les cieux. L'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qu'il est serviteur, un adorateur, un serviteur, pas un adoré, et un messager que l'on ne dément pas. Mais au contraire, on lui obéit et on le suit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a anobli par cette servitude. La preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre et le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. C'est la traduction du sens de Sourate Al-Furqan, verset 1, le premier verset. Explication maintenant de Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, de ce point-là. At-tashahhud alladhi yakunu qabla as-salam min kulli salatin ruknun min arkani as-salah. Hada huwa ar-rukn al-hadi 'ashar, wa ar-rukn ath-thani 'ashar al-julus lah. فلو سلم بعد السجود ترك ركنين ولو جلس ونسي أن يتشهد ترك ركنا واحدا ترك ركنا واحدا وتركهما معا أو ترك التشهد وحده وتركهما معا أو ترك التشهد وحده مبطل للصلاة. والتشهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة يحصل أداء الواجب بأي واحد منها ولا يجمع بينها في صلاة واحدة. والتشهد الذي ذكره الشيخ وتشهد عبد الله بن عبد مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وسمي تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد أخرجه البخاري ومسلم. وعند البخاري بعد ذكر تشهد زيادة وهو بين ظهرانين، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب السلام عليك. فلو توفي فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة بالغيبة. ولكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحية لله وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب السلام عليك. ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر مما علمه هذه الصيغة، وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام جاء عنهم هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع. فللمصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بهذا الشرح الواضح، وقول الشيخ رحمه الله في معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. Le tashahhud qui est avant la salutation de fin de prière, dans chaque prière est un pilier parmi les piliers de la prière. Et c'est le 11e pilier. Le 12e pilier, c'est s'asseoir pour ce tashahhud. Si donc on fait la salutation de fin de prière après le sujoud, c'est-à-dire la prosternation, on aura délaissé donc deux piliers. Et si on s'assit, mais on oublie de faire le tashahhud, on en aura délaissé un seul. Le fait de les délaisser tous deux ensemble ou délaisser le tashahhud seul annule la prière. Pourquoi ? Parce qu'on a délaissé un pilier de la prière. Plusieurs versions du tashahhud ont été rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam. On s'acquitte de son obligation, le tashahhud, si on récite l'une des versions rapportées. Et on n'en récite pas plusieurs dans la même prière. La version du tashahhud citée par le shir, c'est-à-dire Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et le tashahhud rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu ardah. Il a été rapporté dans certaines de ses chaînes, ou de ses différentes versions, que le prophète, alayhi salatu wassalam, leur apprenait ce tashahhud comme il leur apprenait une sourate du Coran. Il a été appelé tashahhud car à sa fin on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ». Ce tashahhud a été rapporté par Al-Bukhari, numéro 831, et Muslim, numéro 402. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, numéro 6265, un rajout a été rapporté après le tashahhud qui dit « Nous disions cela quand il était parmi nous », c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il mourut, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous disions « Assalamu ala nabiyyi ». Le sens de cela est que les compagnons disaient « Assalamu alayka ». Ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, avec la lettre kaf en arabe qu'on utilise pour adresser la parole à quelqu'un. Harfu khitab. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, ils se mirent à dire assalamu ala an-nabiy, c'est-à-dire qu'avant ils disaient assalamu alayka sur toi, et après ils se mirent à dire assalamu ala an-nabiy, assalam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur le prophète sur lui. Mais il a été rapporté dans le tashahhud d'Omar ibn al-Khattab dans Mouattah l'imam Malik numéro 53, avec une chaîne de transmission authentique d'Abdurrahman ibn Abdin al-Qari, qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab dire alors qu'il était sur le minbar, et qu'il apprenait aux gens le tashahhud. Il disait, dites at-tahiyatu lillah, dans lequel il a dit assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, avec kaf al-khitab, assalamu alayka. Omar apprenait donc aux gens le tashahhud alors qu'il était sur le minbar, tashahhud dans lequel il disait assalamu alayka. Ceci indique que les compagnons après la mort du prophète alayhi salatu wassalam disaient ceci et cela, assalamu alayka et assalamu ala nabi. Le prieur peut donc dire assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, et il peut dire assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh a expliqué ce tashahhud par cette explication claire, de manière claire. La parole du cheikh sur le sens de assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, que tu invoques pour le prophète alayhi salatu wassalam la salama, la rahma et la baraka, et que celui pour qui on invoque, on ne l'invoque pas avec Allah. Puis Cheikh, il continue en disant وفي هذا التقرير توحيد الألوهية وأن الدعاء عبادة وقد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة رواه أبو داود وغيره بسند صحيح فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث بأحد سواه كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سورة النمل والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين يدعى لهم الله ولا يدعون مع الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجى وغيره يدعى له ولا يدعى وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع المعنى أن من شأن العبد أن يكون عابدا لا معبودا ومن شأن الرسول أن يكون مصدقا مطاعا ومتبوعا وقد قال رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الشيخ الكوتيني حفظه الله تعالى شيخ المحسن العباد son explication كان le préserve le récompense par le firdaus الأعلى et sa parole sur le sens de السلام علينا وعلى على عباد عباد الله الصالحين que salam est une invocation, une dua, et que les vertueux, on invoque pour eux et on les invoque pas avec Allah. Il y a dans cette explication du shir l'affirmation de l'unicité des divinités, tawhidul uluhiyya, et que la dua, la vocation, est une adoration. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah » Surat al-Jin, verset 18. Il a été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation, c'est l'adoration » rapporté par Abu Daoud, numéro 1479. Et d'autres encore, avec une chaîne de transmission authentique. On invoque donc qu'Allah. On implore le secours que d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé, quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Surat An-Naml, verset 62. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres parmi les messagers, alayhi salatu wassalam, les anges et les vertueux, on invoque Allah pour eux et on ne les invoque pas avec Allah. Allah, le Très-Haut, est le seul que l'on doit invoquer et dont on doit espérer. Et autre que lui, on n'invoque pas pour eux, mais on ne les invoque pas. On invoque pour eux, mais on ne les invoque pas. Sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde, est l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est-à-dire qu'il est un adorateur qu'on ne doit pas adorer, et un messager qu'on ne doit pas démentir, mais de plus, mais au contraire, à qui on se doit d'obéir et que l'on se doit de suivre. Le sens est, le serviteur se doit d'être un adorateur, pas un adoré. Et le messager doit être rendu véridique, obéi, suivi. Cheikh Mohammed bin Al-Wahhab, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans son livre les trois fondements. Le sens de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah est que l'on se doit de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, de rendre véridique ce dont il nous a informé, de s'écarter de ce quoi il a interdit et réprimé, et de n'adorer Allah que au moyen que parce qu'il a légiféré. قوله ومعنى التحيات جمع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به الرب رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Sa parole, c'est-à-dire la parole du Cheikh Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, le sens de At-Tahiyyat, toutes les glorifications reviennent à Allah. Comme le courbement, l'inclinaison, la prosternation et tous les autres types de glorification sont à Allah. Celui qui voue l'une d'entre elles à autre qu'Allah est un associateur mécréant. Explication de Cheikh Mohamed Al-Abbad, hafidahullah ta'ala. L'ibadat est haqq Allah, comme a dit Azza wa Jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء. فيجب صرف جميع أنواع العبادة لله ولا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى. فالصلاة لله والركوع والسجود لله والاستغاثة بالله والدعاء لله والتوكل على الله والاستعادة بالله وهكذا جميع أنواع العبادة لله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سورة الأنعام. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. وهذا الحكم إنما هو على الإطلاق وعلى من بلغته الحجة. وأما الشخص المعين فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل فإنه يتوقف في تكفيره حتى يبين له ويتقام عليه الحجة. وهذا أحد قولين في المسألة ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في جواب السؤال عن بعض أهل البدع جاء فيه. كذلك توسل بالأولياء قسمان. الأول توسل بجاه فلان أو حق فلان. On va déjà traduire ce passage-là avant de continuer pour que ce ne soit pas trop long pour les frères qui sont francophones et les sœurs qui sont francophones. L'explication de Cheikh Mohamed Al-Abbad, hafidahullah, l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Al-Dhariyat, verset 56. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Surat Nahl, verset 36. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Surat Al-Anbiya, verset 25. Tous les genres d'adoration doivent être voués à Allah. Il est interdit de vouer l'une d'entre elles à autre qu'Allah. La prière est à Allah. L'inclinaison et la prosternation sont à Allah. L'imploration du secours est à Allah. L'invocation est à Allah. Le tawakkul, c'est-à-dire le fait de s'en remettre à lui, est à Allah. On cherche refuge auprès d'Allah. Toutes les adorations sont à Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit en vérité, ma prière, ma salah, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Surat Al-An'am, verset 162-163. Celui qui voue l'une de ses adorations à autre qu'Allah est un associateur mécréant. Ce jugement est général et sur celui à qui ont été transmises les preuves, tandis qu'un individu spécifique, s'il voue une adoration à autre qu'Allah, comme par exemple invoquer les morts ou implorer leur secours, et qu'il est ignorant, eh bien on s'arrête et on ne pose pas sur lui le jugement de tekfir, c'est-à-dire qu'on ne le déclare pas mécréant, kafir, jusqu'à ce que les preuves lui soient dressées et que cela lui soit expliqué. Ceci est un des deux avis dans ce qu'a cité Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il a répondu à une question au sujet de certains gens de l'innovation. Il dit, وهذا أحد القولين أو أحد قولين في المسألة ذكرهما شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في جواب سؤال عن بعض أهل البدع جاء فيه. كذلك التوسل بالأولياء قسمان. الأول التوسل بجاه فلان أو حق فلان، هذا بدعة وليس كفرة. التوسل الثاني هو دعاؤه بقوله يا سيدي فلان انصرني أو اشفي مريضي، هذا هو الشرك الأكبر وهذا يسمونه توسلا أيضا، وهذا من عمل الجاهلية. أما الأول فهو بدعة ومن وسائل الشرك. قيل له: وقولهم إنما ندعوه لأنه ولي صالح وكل شيء بيد الله وهذا واسطة. قال: هذا عمل المشركين الأولين. فقولهم: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، هذا جنس عمل أبي جهل وأشباهه، لأنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الدعاء كفر وشرك بالله عز وجل. لكن اختلف العلماء هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له، على قولين. أحدهما أن من قال هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن هذا الشرك ظاهر لا تخفى أدلته. والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلهم، فلا بد أن يبين لهم الأمر ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم. فإن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سورة الإسراء. فإذا وضح لهم الأمر وقال لهم: هذا لا يجوز، قال الله كذا وقال الرسول كذا، بين لهم الأدلة، ثم أصروا على حالهم كفروا بهذا. وفي كل حال فالفعل نفسه كفر شرك أكبر، لكن صاحبه هو محل نظر هل يكفر أو يكفر أم يقال، أمره إلى الله. قد يكون من أهل الفطرة لأنه ما بين له الأمر، فيكون حكمه حكم أهل الفترات، أمره إلى الله عز وجل، لأنه بسبب تلبيس الناس عليه من علماء السوء انتهى كلامه رحمه الله. نقلا من كتاب سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين لشريعة من المسلمين لسيد بن سعد الدين الغباشي، وفي أول الكتاب رسالة من الشيخ عبد العزيز بن باز للمؤلف رحمه الله للمؤلف، تتضمن إقرار الكتاب والإذن بطبعه. والقول الثاني من القولين هو التوقف في التكفير، قرره كثير من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، ونهى ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أهل الإسلام، أصل الإسلام، إلا تفطن. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل الدين. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا، لعلمه بأن هذا أصل الدين. وجدت خديو سيد بخمير بارتي يسي دونك الشيخ المحسن العباد حفظه الله تعالى lorsqu'il parle de porter le jugement de tekfir sur quelqu'un de spécifique المعين il dit: tandis qu'un individu spécifique, s'il voue une adoration à autre qu'Allah, comme par exemple invoquer les morts ou implorer leur secours, et qu'il est ignorant, on s'arrête et on ne pose pas sur lui le jugement de tekfir. On ne le déclare pas mécréant, kafir, jusqu'à ce que les preuves lui soient dressées et que cela lui soit expliqué. Ceci est un des deux avis dans ce qu'a cité, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il a répondu à une question au sujet de certains gens de l'innovation. Il dit: le fait de prendre pour intermédiaire à Tawassul des Awliya, la définition donnée par Ibn Taymiyyah de l'Awliya, c'est Kullu mu'minin taqi, chaque croyant pieux, est de deux types. Le premier, de prendre pour intermédiaire, de demander par le jah d'un tel, par le rang de quelqu'un, par la dignité de quelqu'un, ou par le haq d'un tel, par le droit d'un tel. Ceci est une innovation et ce n'est pas une mécréance. Le deuxième type de tawassul, c'est de l'invoquer en disant « Oh Seyyidi un tel, oh mon maître un tel, rends-moi victorieux, secours-moi ou guéris mon malade. » Ceci est la grande association et il l'appelle également tawassul. Ceci fait partie des actes de la jahiliya. Le premier type est une innovation et fait partie des choses qui amènent à l'association. Il fut dit à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, leurs paroles. Nous ne les invoquons que parce que c'est un wali vertueux. Tout est par Allah. Il est un intermédiaire. Cheikh Ibn Baz répondit, ceci est l'action des anciens associateurs. Leurs paroles, madad o Badawi, madad o Hussein, c'est exactement le genre d'adoration que faisait Abu Jahl et ses semblables. Car il disait, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah, surat Yunus verset 18. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah, surat Zumar verset 3. Cette invocation est une association à Allah et une mécréance, mais les savants ont divergé. Celui qui commet cela est-il jugé mécréant ou doit-on attendre que les preuves lui soient dressées et que cela lui soit expliqué, clarifié? Deux avis. Le premier, celui qui dit celui-là est un mécréant, de la grande mécréance, car cette association est évidente. Les preuves sont évidentes. La deuxième, ceux-là peuvent être dans l'ignorance et il se peut qu'ils aient des savants du mal qui les ont égarés. Il est obligatoire de leur expliquer cette chose et de la leur clarifier afin que cela soit clair pour eux. Car la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » Sourate l'Isra verset 15. Si cela leur a été clarifié, que cela n'est pas permis, Allah a dit ceci et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, on leur met en évidence les preuves et qu'ils ne changent pas. Ils sont alors mécréants. De toute manière, l'action qu'ils commettent en elle-même est une grande association. Mais quant à celui qui la commet, il faut étudier sa situation. Est-il mécréant ou dit-on, sa situation revient à Allah? Peut-être fait-il partie de Ahl al-Fatrah, car cela ne lui a pas été expliqué et son jugement est alors le même que Ahl al-Fatarat, ceux à qui le message n'est pas parvenu. Sa situation revient à Allah, car des gens parmi les savants du mal lui ont caché la vérité. Fin des citations tirées du livre. سعة رحمة رب العالمين للجهال المخالفين للشريعة من المسلمين للسيد بن سعد الدين الغباشي. Au début du livre d'ailleurs, il y a de cet auteur donc Sayyid ibn Sa'd al-Din al-Ghabashi. Il y a une lettre de Cheikh Ibn Baz rahimahullah adressée à l'auteur et datée du 7 mai 1403 de l'Hégire qui autorise l'édition du livre et le légitimise. Le deuxième avis, c'est de s'arrêter et de ne pas donner le jugement de tekfir, c'est-à-dire de ne pas juger la personne mécréante. C'est l'avis choisi par beaucoup de savants. Parmi eux, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Al-Istiratha, tome 2, page 731, « Après avoir connu ce avec quoi est venu le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous savons nécessairement qu'il n'a pas légiféré à sa communauté d'invoquer quiconque parmi les morts, ni les prophètes, ni les vertueux, ni personne d'autre, que ce soit en prononçant la parole d'Istiratha ou autre, ni en prononçant la formule d'Istiratha ou autre. Istiratha, on avait vu que c'était implorer le secours et que l'Istiratha, c'est rechercher le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Ou autre, comme il n'a pas légiféré de se prosterner pour un mort ou un vivant. Mais de plus, nous savons qu'il a interdit toutes ces choses et que cela fait partie de l'association qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdite. Mais à cause de la prédominance de l'ignorance et de peu de science des athar, du message, chez beaucoup parmi les dernières générations, eh bien, ils ne les sont pas jugés mécréants tant qu'ils n'ont pas compris ce avec quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu et ce qui transgresse cela. Et c'est pour cela que je n'ai pas expliqué ce point à quelqu'un qui connaît le fondement de l'islam sans qu'il se rende compte de cela et dise « ceci est le fondement de la religion ». Certains grands parmi les chouyours qui connaissent parmi nos compagnons ont dit « ceci est la chose la plus importante que tu nous aies expliquée » car ils savent que ceci est le fondement de la religion. Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit « وَإِذَا كُنَّ لَا نُكَفِّرُوا مَنْ عَبَدَ الصَّنَمْ الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكف أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم الدرة السنية المجلد الأول الصفحة 66 وقال أيضا بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك مجموع مؤلفات شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجلد الثالث الصفحة 34 وقال أيضا ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء وكذلك قولهم إني أقول من تبع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تبع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي فهذا أيضا من البهتان إنما المراد اتباع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي أرض كانت لكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم عاداه وصد الناس عنه وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا انظر مجموعة مؤلفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجلد الثالث الصفحة الثالثة بعد 30 وقال أيضا وأما ما ذكر أو ما ذكر الأعداء عفوا وأما ما ذكر الأعداء عني أن أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مجموع مؤلفة الشيخ المجلد الثالث الصفحة 14 On traduit déjà ce passage. Donc Cheikh Mohamed bin Al-Wahhab rahimahullah, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Si nous ne jugeons pas mécréants ceux qui adorent l'idole sur la tombe d'Abd al-Qadr et l'idole qui est sur la tombe d'Ahmed al-Badawi et leurs semblables, à cause de leur ignorance et que personne ne leur clarifie cela, comment pourrions-nous rendre mécréants celui qui n'associe pas Allah s'il n'immigre pas vers nous et ne mécroit pas et combat ? Gloire à toi Allah, c'est une énorme calomnie. Voir Durar Saniya, volume 1, page 66. Il dit également, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais de plus, nous prenons Allah comme témoin sur ce qu'il connaît dans nos cœurs, que celui qui pratique l'unicité, le tawhid, est innocent du shirk de l'association et de ses gens, c'est-à-dire les gens de l'association, et qu'il est musulman à quelque époque et à quelque endroit que ce soit. Qu'il est musulman à quelque époque et à quelque endroit que ce soit. Nous ne jugeons mécréant que celui qui associe Allah dans sa divinité. Après que nous lui ayons expliqué les preuves sur la nullité, la fausseté du shirk de l'association, voir recueil des ouvrages du Cheikh Mohamed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, volume 3, page 34. Et il dit également, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce qui vous a été dit sur moi, que je rends mécréant de manière générale, ceci est une calomnie venant des ennemis, ainsi que leurs paroles, que je dis que celui qui suit la religion d'Allah et de son messager, ou est son messager, et habite dans son pays, que cela n'est pas suffisant et qu'il se doit d'émigrer vers moi. Ceci est également une calomnie. Ce qui est voulu des gens, c'est qu'ils suivent la religion d'Allah et de son messager, alayhi salatu wasalam, ou que ce soit. Mais nous jugeons mécréant celui qui reconnaît la religion d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wasalam, puis ensuite la déteste et détourne les gens de la religion. Ainsi que celui qui adore les idoles, après qu'il ait su que c'est la religion des associateurs. Il est embelli aux gens. C'est celui-là que nous jugeons mécréant. Tous les savants sur terre jugent mécréant cela, sauf un homme ignorant, têtu et obstiné. Voir recueil des ouvrages du Cheikh, c'est-à-dire Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, tome 3, page 33. Il dit également, tandis que ce que disent les ennemis à mon propos que je juge mécréant pour un soupçon ou par alliance, ou que je rends mécréant l'ignorant auquel n'ont pas été dressées les preuves, ceci est une énorme calomnie. Ils veulent par cela détourner les gens de la religion d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Voir le recueil d'ouvrages du Cheikh, tome 3, page 14. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ donc c'est toujours الشيخ عبد المحسن العباد qui continue ici حفظه الله في كتاب منهاج التأسيس والتقديس الصفحة 98 إلى 99 والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما على إطلاق الكفر حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهلي الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو أو غيرهم إذا لم يتيسر له ما ينصحه ويبلغه الحجة حتى يكفر تاركها قال في بعض رسائله وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا وقال وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور وقال أيضا في مصباح الظلام صفحة 99 بعد 400 فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقها أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة والشيخ وغيره من المسلمين أي شيخ محمد بن عبد الوهاب لا يتوقفون في هذا وشيخنا رحمه الله أي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا للعلماء لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له وقال أيضا في مصباح الظلام الصفحة 16 بعد 500 وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها وهذا صريح في كلامه وفي غير موضع ورسائله في ذلك معروفة. وكيف كنودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ Il a dit dans son livre Minhaj al-Ta'sis wa al-Taqdis, page 98-99, et Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait partie des gens qui s'arrêtaient le plus et prenaient le plus de recul sur le fait de juger mécréant, à tel point qu'il n'a pas jugé mécréant l'ignorant qui invoque autre qu'Allah, parmi les gens des tombes ou autres. S'il n'a pas pu être conseillé par quelqu'un et personne n'a pu lui transmettre la preuve, celui qui la délaisse mécroit. Il dit dans certains de ses épîtres, si nous ne combattons pas celui qui adore la Qubba de Al-Kawaz, tant que nous ne l'avons pas appelé à vouer une adoration sincère à Allah, comment donc pourrions-nous rendre mécréant celui qui n'émigre pas vers nous, même s'il est croyant, et sur l'unicité? Et il dit, il fut questionné sur ce type d'ignorant. Et il affirma que celui sur qui les preuves avaient été dressées et ont été aptes à les connaître, qu'il devenait mécréant en adorant les tombes. Il dit également qu'Allah lui fasse miséricorde dans Misbah al-Zalam, page 499, celui à qui était transmis l'appel des messagers à l'unicité d'Allah et à l'obligation de se soumettre à lui, et qui a compris que les messagers sont venus avec cela. Celui-là n'a aucune excuse s'il transgresse et délaisse l'adoration d'Allah. Et celui-là, c'est celui dont nous affirmons qu'il est mécréant s'il adore autre qu'Allah et lui donne des semblables et prend d'autres divinités avec lui. Et le cheikh ainsi que tout autre musulman ne s'arrête pas quant au jugement de celui-ci. Et notre cheikh a affirmé cela et l'a expliqué en conformité avec les savants de la communauté et en les prenant pour exemple et n'a jugé mécréant qu'après que les preuves aient été dressées et qu'elles soient apparentes à tel point qu'il s'arrêtait et ne prononçait pas le jugement de takfir, hein, c'est-à-dire de rendre mécréant quelqu'un sur l'ignorant. Parmi les adorateurs de tombes, si personne ne pouvait lui faire la remarque. Et ceci est le sens de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Tant qu'ils n'ont pas compris ce avec quoi est venu le messager. Si l'explication a été donnée de manière à ce que celui à qui cela est adressé les comprise et les saisit, seulement alors cela lui a été mis en évidence, expliqué. Il dit également dans Misbah al-Dhalam, page 516, et notre cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire cheikh Mohammed bin al-Luhab rahimahullah, n'a jugé personne mécréant directement pour son action et son association. Mais de plus, il s'arrêtait jusqu'à ce qu'il sache que les preuves aient été dressées, de manière à ce que celui qui les ait délaissées, qui les délaisse mécroît. Ceci est clair dans ses paroles, à plus d'endroits, et ses épîtres à ce sujet sont connus. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidahullah, il continue en rapportant une parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Il dit, وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع المجلد السادس الصفحة الرابعة والتسعين بعد مئة. Et je rappelle que الشرح الممتع c'est l'explication de Zad al-Mustaqni, qui est en 15 volumes, qui est un livre à la base dans le fiqh, et qui est expliqué par Cheikh Al-Uthaymin, et qui a appelé donc son explication à الشرح الممتع. وهو اسم على مسمى. Il est vraiment en droit d'être appelé à الشرح الممتع. لكن من كان جاهلا ولم يكن عنده أي شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حق أو يقول هذا على أنه الحق فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يريد المعصية والكفر فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلا في أصل من أصول الدين فالإيمان بالزكاة وفريضتها أصل من أصول الدين ومع ذلك لا يكفر الجاهل وبناء على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام بل قد لبس عليهم أن هذا ممن يقرب إلى الله وأن هذا أمر الله وهم مقتفون للإسلام وغيرون عليه ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام ولم يأتي أحد ينبههم فهؤلاء معذورون لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء هذا شرك فيقول هذا ما وجدت عليه آبائي واجدادي فإن حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تقرير هذه المسألة. Donc c'est Cheikh Mohsen Al-Abbad qui continue, mais on va d'abord traduire la parole de Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله. Il dit dans شرح الممتع volume 6 page 194, mais celui qui est ignorant et n'a pas d'ambiguïté et croit que ce sur quoi il est la vérité, on dit ceci car c'est, ou dit ceci car c'est la vérité. Celui-ci, sans aucun doute, ne cherche pas la transgression et ne cherche pas la désobéissance et la mécréance. On ne peut pas le juger mécréant, mais s'il est ignorant d'un des fondements de la religion, hein, même s'il est ignorant d'un des fondements de la religion, la foi, la croyance en la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale prescrite, en son obligation, est un fondement parmi les fondements de la religion. Malgré cela, l'ignorant n'est pas jugé mécréant. En se basant là-dessus, on comprend la situation de nombreux musulmans dans certains pays islamiques qui demandent secours aux morts et ne savent pas que cela est haram, illicite. Cela leur a été présenté comme quelque chose qui les rapproche d'Allah. Et que c'est l'ordre d'Allah. Ils suivent l'islam et ont de la jalousie pour l'islam. Ils croient que ce qu'ils font fait partie de l'islam. Personne ne leur a fait la remarque. Ceux-là sont excusés. On ne leur reproche pas comme on pourrait reprocher aux têtus obstinés
celui auquel les savants disent ceci est un shirk, une association. Et il dit, c'est ce sur quoi j'ai trouvé mes pères et mes aïeux. Ce jugement de ce dernier est le jugement de ceux dont Allah a dit, et c'est la traduction du sens du verset, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Surat Az-Zukhruf, verset 22. Maintenant, comme j'ai dit, Cheikh Al-Mahsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, il continue en disant وإنما أفضت بذكر النقول عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تقرير هذه المسألة وهي أن تكفير المعين الذي وقع في الشرك في العبادة لجهله إنما يكون بعد البيان له وإقامة الحجة لا قبل ذلك لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشنع عليه وينفر من دعوته برميه بتكفير المسلمين والتكفير بالعموم وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة ولأن نفرا يسيرا من طلبة العلم من أهل السنة فيما علمت يعيبون على من يقرر ذلك وهو عيب لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وبيته شيخا الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة خير من الخطأ في العقوبة وهم في عيبهم القول الذي قره الشيخان والحرص على خلافه يفسحون المجال للمتربصين بأهل السنة الذين يصطادون في الماء العكر فيرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أهل السنة وهو بهت وزور ممن افتراه أو ردده فإن الذين رددوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد قد درسوا كما درس غيرهم هذه المناهج ولم يحصل لهم ضرر منها بل حصل النفع العظيم منها لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه وإنما حصل تطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين وقدوتهم في ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة ولكل قوم وارث والله المستعان. On va donc terminer par cette parole de Cheikh Al-Mahsin Al-Abbad, Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il continue donc en disant Je ne me suis épanché en citation de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab sur ce sujet, et c'est le fait de juger mécréant un individu particulier, Takfir al-Mu'ayyan, qui a commis le shirk dans l'adoration, à cause de son ignorance, ne peut se faire qu'après avoir expliqué et dressé les preuves, pas avant. Car il y a parmi les ignorants et les et ceux qui prouvent de la rancune envers lui et sa prêche, basée sur le Coran et la Sunna, et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de la communauté, qui les dénigrent et font fuir les gens de sa prêche, en l'accusant de juger mécréant les musulmans et de juger mécréant de manière générale. Il ne juge mécréant que celui à qui ont été dressées les preuves et lui soit apparue la bonne voie. Et car certains, mais peu nombreux, étudiants en science parmi les gens de la Sunna, d'après ce que je sais, font des reproches à celui qui affirme cette position. Mais en réalité, c'est un reproche à la position affirmée par les deux chers à l'islam, Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdul Wahhab, et d'autres parmi les gens de science. Le fait de se tromper en pardonnant, en faisant grâce dans les points ambigus, est meilleur que se tromper en punissant. En faisant ces reproches à la parole affirmée par les deux chers, et en s'attachant au contraire, ils nous font couvrir les portes à ceux qui sont à l'affût, qui guettent les gens de la Sunna, qui pêchent en eau trouble. Ils font écho aux ennemis, à celui des ennemis de l'islam. Ils font écho aux cris des ennemis de l'islam et des musulmans qui prétendent que l'extrémisme de ceux qui sont à l'origine des explosions et de la destruction, que cet extrémisme a pour origine l'étude du programme des cours basés sur les livres de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah. Et d'autres parmi les gens de la Sunna, c'est une calomnie et une falsification de la part de celui qui cela vient ou de celui qui en lui en fait écho. Car ceux qui en font l'écho parmi les gens de ce pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, ont étudié comme des autres, comme les autres, le programme, ce programme. Et ils n'ont pas subi des torts. Mais de plus, ils en ont tiré de grands bienfaits, de grands bénéfices. Celui à qui Allah a voulu la guidance et lui a facilité. L'extrémisme de ces extrémistes n'a été rendu possible que par leur mauvaise compréhension par lesquelles ils se sont isolés et sont sortis de la jama'a des musulmans. À l'exemple des Khawarij, ils se sont isolés et se sont rebellés contre les compagnons. À l'exemple des Khawarij qui se sont isolés et se sont rebellés contre les compagnons, radiallahu anhum, en résultat de leur mauvaise compréhension, et donc à chaque peuple un héritier, et à chaque peuple un héritier, Wallahu ta'ala a'lam. Et Cheikh, il termine en disant Wallahu al-musta'an, et on va terminer donc ce réenregistrement du 10e cours là-dessus. Wa jazakum Allahu khairan, Wallahu a'lam, wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.